L'évangile pour le couple.
L'évangile pour le couple.
Présenté par Alex et Maud Loriot-Prévot.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Voilà, nous avançons encore sur ce chemin de l'évangile pour le couple. Et nous allons avancer dans une étape supplémentaire pour illustrer notamment combien l'Esprit Saint, dans sa plénitude, veut habiter notre vie conjugale et même toute notre maison. C'est-à-dire que ce soit notre couple, mais aussi nos enfants et tout l'espace que nous habitons, notre maison, notre appartement, notre vie finalement, tout cela. Et nous voulons notamment avancer avec l'illustrer au travers de cette histoire qui s'est passée dans les Actes des Apôtres, avec l'histoire de Cornélius. Cornélius est un centurion romain. C'est un païen qui un jour est interpellé fortement dans son cœur. Donc il ne connaît pas la foi et il n'est pas de tradition juive, mais il est interpellé fortement dans son cœur par le Seigneur. Et donc il va faire chercher l'apôtre Pierre. Il va chercher l'apôtre Pierre, celui qui préside l'Église, pour comprendre et recevoir son enseignement, c'est-à-dire la vérité sur la révélation du Christ, sur le ministère du Christ, sur son rôle. Et tandis que Pierre annonce l'Évangile, l'Esprit-Saint, de manière surprenante, est donné à Cornélius et à toute sa maisonnée. Et ceux-ci alors sont alors baptisés et admis dans la communauté des croyants, c'est-à-dire l'Église. Et c'est un processus dans ces différentes étapes qui illustre combien nous avons à passer différentes étapes pour que l'Esprit de Dieu transforme et habite toute notre maison. Pas simplement le papa et la maman, mais l'ensemble de ceux qui y habitent. Maud, peut-être que tu peux reprendre justement la fin de ce texte dans Acte 10.
Voilà, Pierre exposait encore ces événements quand l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui avaient écouté la parole. Ce fut la stupeur parmi les croyants qui avaient accompagné Pierre. Ainsi, jusque sur les nations païennes, le don de l'Esprit-Saint était maintenant répandu. Pierre reprit alors la parole. Quelqu'un pourrait-il empêcher de baptiser par l'eau ces gens qui, tout comme nous, ont reçu l'Esprit-Saint? Il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ et ils lui demandèrent alors de rester quelques jours avec eux.
Voilà. Et tu me soulignais, moi, tout à l'heure, en préparant cette émission, combien... Il est important que nous ayons cette proximité avec l'Esprit Saint en tant que couple et en tant que famille.
Voilà, parce que finalement dans cette expérience de l'Esprit Saint qui est donnée pendant qu'on écoute la parole, il y a cette notion d'effusion de l'Esprit qui vient renouveler à la lecture, à l'écoute de la parole de Dieu, la vie de l'Esprit Saint en nous, vient activer, si je puis dire, les forces de notre baptême ou des sacrements qu'on a pu recevoir. Et même ceux qui n'ont reçu aucun sacrement peuvent, par justement l'initiative de l'Esprit-Saint, parce qu'ils ont un cœur ouvert, être touchés par la parole et recevoir cette effusion. Alors elle se manifeste comment, cette effusion? Elle se manifeste par le fait que les gens célèbrent la grandeur de Dieu, louent le Seigneur. Donc il y a une louange spontanée qui naît, qui jaillit. Et à chaque fois qu'on est saisi dans un événement, à l'écoute de la parole, ou en contemplant la nature, ou par la beauté d'un geste, d'un sourire, par la naissance d'un enfant, enfin toutes ces choses qui nous sont données de vivre, qui sont belles, voilà, et qu'on est saisi intérieurement par ce qui se passe à ce moment-là, on reçoit comme une grâce d'effusion de l'Esprit. Donc c'est une sorte de renouvellement de cette présence de l'Esprit-Saint qui vient susciter en nous l'émerveillement.
Alors, ce qui est aussi très frappant dans ce texte, c'est que c'est cette respiration, cette articulation, même surprenante, entre la parole du Christ qui est proclamée au travers de Pierre, qui annonce la bonne nouvelle du Christ, et finalement cet Esprit Saint qui vient faire irruption, parfois de manière surprenante dans nos vies, hein, au travers de nos différentes célébrations, etc., des différentes liturgies. Effectivement, nous invoquons l'Esprit Saint et je dis, tout ça c'est un peu organisé et c'est bien, mais parfois l'Esprit Saint, et c'est ça aussi qui est merveilleux, c'est qu'à un moment, il vient nous surprendre nous illuminer au cœur de nos vies dans des choses les plus communes qui soient, de recevoir des amis, un prêtre, des témoins, de rencontrer qui, Pierre, Paul, Jacques, etc., dans la vie de tous les jours.
Voilà, on sent bien que par moments, il y a des expériences qui nous sont données, où au-delà de l'événement auquel on a pu assister, où il y a quelque chose qui vient toucher notre cœur en profondeur, et de là jaillit une espèce de louange à Dieu, de reconnaissance de la beauté de ce qui se vit là. Il y a comme on pourrait dire, un moment d'éternité. Et l'Esprit Saint, c'est vraiment une personne qui vient nous visiter et qui vient susciter en nous cet élan extraordinaire. Et ça, je trouve que c'est important de le souligner, parce que souvent, l'Esprit Saint, on ne sait pas trop qui c'est. Mais justement, on le mesure à cette action qu'il a dans nos vies, cette espèce de mouvement de louange et d'émerveillement et de joie intense qui nous est donné de vivre.
C'est un peu, on pourrait faire le parallèle avec un autre passage, mais là, évangélique, avec cette rencontre des disciples d'Emmaüs, où effectivement les disciples d'Emmaüs quittaient Jérusalem après les événements de la Passion, etc. Ils étaient tout tristes, etc. Et puis ils rencontrent Jésus qui va leur ouvrir les Écritures. Bon, ils reconnaissent pas Jésus, etc. Et puis ce n'est qu'à la fraction du pain, le soir, quand ils sont arrêtés à l'auberge, qu'à un moment qu'ils reconnaissent Jésus, bon, Jésus disparaît à leurs yeux. Et à ce moment, ils rentrent à Jérusalem et ils témoignent que leur cœur était tout brûlant, pas simplement content, mais brûlant. Quand ils nous partageaient les Écritures. Donc c'était ce témoignage de cette expérience que la parole de Dieu introduit à cette ville l'Esprit Saint, qui à un moment se répand dans nos cœurs de manière surprenante.
Je me souviens aussi de cet ami qui avait un croyant qui avait décidé de lire l'Évangile de bout en bout pour voir qu'est-ce que vraiment le Christ proposait. Et puis au cours de sa lecture, au début, il était très sarcastique, il faisait un peu des commentaires ironiques, personnellement, tout seul sur son bout de papier. Et puis un soir, il avait oublié de prendre son temps de lecture, il a été réveillé dans la nuit avec cette envie de lire la parole. Il a continué sa lecture et cette fois-ci, il s'est passé quelque chose. L'Esprit Saint, tout d'un coup, lui a fait comme vivre cette parole sous les yeux et il a été touché au plus profond de lui-même. Et ça a été le début de tout un chemin de foi qui l'a ramené justement à cette découverte du Christ. L'Esprit Saint avait été premier, finalement, son cœur s'était ouvert avec l'idée de voir ce que c'était, ce Christ et cette parole de Dieu. Et l'Esprit avait jailli dans cette expérience-là pour faire fructifier et rendre vivante cette parole.
Alors on a un autre témoin qu'on aime beaucoup, et que d'ailleurs nos frères de l'Église orthodoxe, les Églises orthodoxes aiment beaucoup également, un saint récent, si on peut dire, puisqu'il a vécu au XIXe siècle, saint Séraphim de Sarov. Et il est très connu notamment au travers d'un entretien qui a été rapporté, qu'il a eu avec un jeune homme d'une trentaine d'années, qui s'appelait Motovilov. Et Motovilov cherchait depuis des années et des années le sens de sa vie. Motovilov est très très moderne. C'est vraiment tout le monde entier aujourd'hui, toute la jeunesse cherche toujours le sens de sa vie, qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Et donc il est allé rencontrer ce saint au fin fond de la Taïga, etc. Et il a eu justement toute une discussion avec saint Séraphim, qui était là depuis des années en ermitage, mais qui accueillait comme ça des laïcs venant des villes avoisinantes. Et tout le cœur de l'enseignement de saint Séraphim auprès de Motovilov, c'est de dire que le but de la vie chrétienne, le but de la vie, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. C'est l'acquisition du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'accueil de l'Esprit-Saint qui vient illuminer complètement notre vie et la transformer, comme il a transformé le cœur des disciples d'Emmaüs, comme il a transformé la vie de Cornelius et de toute sa maisonnée. Il vient illuminer, transformer, faire habiter une joie que le monde ne connaît pas dans cette maison, dans nos maisons.
Alors il faut poursuivre l'anecdote, parce que au moment où Séraphim expliquait justement comment est-ce que l'Esprit Saint finalement illuminait la vie au fin fond de cette taïga, tout d'un coup Motovilov a vu Séraphim complètement illuminé par un halo lumineux, à tel point qu'il ne sentait plus le froid et la neige, parce que ce halo réchauffait l'environnement, et il s'est trouvé pris dans cette lumière de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint a comme fait irruption pour confirmer la parole de Séraphim qui a été transfiguré. Donc finalement l'Esprit Saint a comme permis à Motovilla de vivre sans doute un petit peu de cette expérience qu'ont dû vivre Pierre, Jacques et Jean accompagnant Jésus sur le mont Tabor lorsqu'il a été transfiguré. Voilà, il est devenu lumineux, complètement irradié par Dieu, par la présence divine. Et ben cette expérience-là, sans être aussi, je peux dire, extraordinaire, on peut tous en vivre par des moments justement où cet esprit nous est donné. Il y a comme une illumination intérieure. Certains parlent d'un déchirement de l'intelligence où tout d'un coup il y a une nouvelle lucidité qui est donnée.
Voilà, donc je crois que c'est vraiment tout notre désir, c'est de vouloir vraiment insister avec vous combien la vie de l'Esprit Saint est essentielle dans nos vies personnelles et aussi conjugales, et finir donc cette première partie avec un texte lumineux de Jean-Paul II dans sa lettre aux familles. Voilà. L'amour ne peut être approfondi, dit-il, l'amour ne peut être approfondi et préservé que par l'amour, avec un grand A, répandu en nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous fut donné. N'est-ce pas là que devient indispensable l'effusion de l'Esprit-Saint, dit Jean-Paul II, demandée lors de la liturgie du mariage, invoquée lors de cette liturgie. L'apôtre, fléchissant les genoux devant le Père, le supplie de daigner vous armer de puissance par son Esprit Saint pour que se fortifie l'homme intérieur. Cette force de l'homme intérieur qu'est l'Esprit Saint est nécessaire dans la vie conjugale et familiale, spécialement dans ces moments critiques, c'est-à-dire quand l'amour est appelé à surmonter toutes sortes d'épreuves. Voilà, cet Esprit Saint, c'est une force indispensable, un secours immense pour nos vies conjugales et familiales. C'est ce que vraiment nous invoquons sur chacun de nous, chacun de nos couples, pour que nous vraiment nous soyons armés de cette force divine. À tout de suite.
Prenons la suite de cette émission de l'Évangile pour le couple consacrée à l'Esprit Saint. Nous étions en train justement de parler de cette effusion que l'Esprit pouvait produire dans nos vies et qui nous permettait de redécouvrir un nouvel émerveillement, une nouvelle action de grâce. On peut prendre un exemple dans la parole, Alex, notamment concernant l'apôtre Pierre. Je crois que c'est très intéressant et très éclairant.
C'est très éclairant pour bien illustrer qu'une chose est la et la foi dans le Christ et dans Jésus, dans ce qu'il est. Et une autre chose est l'Esprit Saint qui vient faire fructifier cette foi. Reprenons tout le processus, tout le cheminement de Pierre. Pierre a été appelé par Jésus, il a dit oui, il était signé par le Christ, et il le suit, il est témoin de son attachement. Bon, après, tous ses défauts, il joue les gros bras, il bute comme les autres disciples sur ses enseignements. Et puis, malgré toute son assurance promise à Jésus, ben, il le trahit. Hein. Bon. Et puis, Pierre se reprend, il pleure, il accueille l'amour et le pardon de Jésus, il croit à la résurrection, il reçoit, il est confirmé dans son ministère, mais Pierre, il a toujours peur. Il a la foi, il l'a trahi, il l'a retrouvé, il a refait la confiance, Jésus lui a confié le ministère, mais il a une foi, mais de conviction, réfléchie, maîtrisée, respectable. Bien sûr que c'est indispensable, mais sa foi, en fait, elle est comme un peu verrouillée. Elle est comme, on pourrait dire, même un peu stérile. Et puis, il y a cette expérience du cénacle avant la Pentecôte, où Pierre, comme les apôtres, bah, ils ont peur. Ils ont peur de ce qui va se passer. Jésus est monté au ciel et il a peur. Et puis, l'esprit de Pentecôte vient comme déchirer un voile intérieur et qui libère en lui la parole. Et Pierre, à ce moment-là, dans tous les actes, n'aura plus du tout la même attitude, ayant accueilli l'Esprit Saint, par rapport au temps où il ne connaissait pas cette expérience de l'Esprit Saint. Et c'est là où, à ce moment-là, il va confesser le Christ, et il n'a plus aucune peur, et il ne brûle de ce zèle de l'Évangile et de l'amour pour son Seigneur. Et c'est là où il le dit, il crie devant tout l'aéropage de la Pentecôte, que toute la maison d'Israël le sache, donc avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Et d'entendre cela, ils eurent le cœur transpercé, beaucoup accueillirent ses paroles et furent baptisés environ 3000 hommes.
Bon, voilà. On peut dire qu'il a fait le sermon le plus fructueux peut-être de toute l'histoire de l'Église, un sermon 3000 convertis. Je pense qu'il y a beaucoup de prêtres et d'hommes d'Église qui rêvent de cela. De cette, je dirais, cette fécondité de sa parole. Mais c'est là on voit vraiment l'action de l'Esprit Saint qui l'a comme saisi et qui a complètement libéré Pierre en lui donnant justement une foi qui était renouvelée, qui était vivante et qui était assurée. Il était plus tremblant dans les murs de la maison à se demander si on allait venir le tuer. Il est allé au devant des autres pour annoncer cette nouvelle incroyable de cette résurrection du Christ. Et cette énergie que l'Esprit Saint lui a donnée, on sait que ça l'a mené jusqu'à la mort et jusqu'au martyre. Mais il a pu libérer cette force qui lui avait été donnée par l'Esprit Saint.
C'est vraiment l'Esprit Saint qui rend la foi vivante, qui rend la foi déterminante, qui fait qu'à un moment, la foi va habiter toute la maison, va habiter toute la vie. Donc c'est pour ça que c'est absolument déterminant dans nos vies personnel, conjugal, familial, de pouvoir, comme le disait Saint Séraphim de Sarov à Motovilov, acquérir le Saint-Esprit, accueillir, peut-être que c'est plus facile comme formule pour nous. Et Jean-Paul II le dit, que cet Esprit Saint, en allant encore plus loin, c'est que c'est aussi le cœur et l'âme du combat de la conversion que nous avons à mener dans ce monde en tant que famille, en tant que famille. Alors, écoutons-le. I need you like the rain. La famille se trouve au centre du grand affrontement entre le bien et le mal, entre la vie et la mort, entre l'amour et tout ce qui s'y oppose. C'est à la famille qu'est confiée la tâche de lutter. Pour libérer les forces du bien dont la source est dans le Christ Sauveur. Il est donc essentiel, que chaque foyer s'approprie ses forces afin que toute la famille soit forte de Dieu.
Voilà, c'est l'Esprit Saint vient donner cette force qui va permettre de mener le combat. Et qu'est-ce que c'est que ce combat? On a parlé du combat intérieur, de la conversion, mais le premier combat, c'est celui de la confession du Christ. C'est-à-dire que l'Esprit Saint va nous permettre de dire « Abba, Père ». C'est ce qu'il y a dans la parole de Dieu. C'est-à-dire, oui, Dieu est mon Père, et Je m'en remets entre ses mains et c'est lui qui va me guider. Je reconnais qu'il est mon créateur et mon sauveur. Et c'est l'Esprit Saint nous pousse à confesser le Christ. Ce qui fait que même plus tard dans la parole, je crois que c'est dans l'épître de Jean, Alex, si je ne me trompe pas, hein, il est dit « À ceci vous reconnaîtrez l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ est Seigneur et il vient de Dieu. Il demeure en lui et lui demeure en Dieu. » Donc ça veut dire que dès qu'on trouve quelqu'un qui dit « Oui, le Christ est Seigneur, le Christ est Sauveur », c'est que l'Esprit-Saint est à l'œuvre dans son cœur. C'est la signature de la présence de l'Esprit-Saint. Et on reconnaît l'Esprit-Saint à ses fruits.
Et en cela, nous avons à l'accueillir en tant que couple, mais aussi pour nos enfants. Là encore, Jean-Paul II va souligner que les parents sont les ministres de l'Esprit-Saint pour les enfants. Là encore, nous citons la lettre de Jean-Paul II aux familles. « Vous devez, dit-il, aux couples et aux parents, vous devez naître d'en haut. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Il vous faut naître de nouveau. » Il cite en cela l'Écriture. Et il poursuit « C'est précisément vous, les époux, qui êtes les premiers témoins et ministres de cette nouvelle naissance de l'Esprit-Saint. » Voilà, c'est nous sommes ministres auprès de nos enfants du don de cet Esprit-Saint, avec toute l'Église, bien entendu. Mais nous avons un rôle incomparable.
Voilà, alors les fruits de l'Esprit-Saint dans notre vie conjugale, il y en aurait beaucoup, et je crois qu'on en reparlera quand on parlera du discernement. Mais déjà, un des premiers fruits, c'est la vivification de notre vie de foi. C'est-à-dire que l'Esprit-Saint va nous pousser à la prière, à la lecture de la parole. Et quand on va lire la parole, elle va nous parler. Elle va pas être simplement une histoire extérieure. Elle va prendre du sens. C'est pour ça que quand on ouvre la parole, parfois au hasard, dans notre prière, ben tiens, il y a une phrase, il y a une expression, il y a un mot qui vient nous parler et qui vient rejoindre l'expérience de nos vies au moment où on la lit. Et ça prend un relief particulier. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit-Saint. On ne peut plus lire la parole comme simplement une histoire. Elle vient parler à nos cœurs et nous guider sur ce chemin de l'amour et de la révélation.
Et c'est là où cette expérience de l'Esprit-Saint vient nous construire au fur et à mesure. Vient nous structurer, vient donner vie et corps à cette foi. Et fait qu'à un moment très concrètement, dans l'espace quotidien de la vie, au fur et à mesure, on croit dans cette fortification de notre vie conjugale et familiale.
Voilà, et c'est comme ça qu'on reconnaît que l'Esprit-Saint commence à travailler les cœurs, parce que spontanément, notre vie va essayer de se mettre en conformité avec l'Évangile. Et l'Esprit-Saint nous pousse à faire des choix qui vont être en cohérence avec ce que l'on commence à vivre. Et c'est là où je trouve ça merveilleux de voir que la pédagogie de l'Esprit colle complètement toujours à notre vie concrète. C'est pas décalé. C'est pas parce que l'Esprit-Saint nous semble une personne moins facile à comprendre qu'il est moins concret. Et l'Esprit-Saint intervient dans nos vies sur des petits détails pour nous aider à voir progressivement quelle est la volonté du Père. Et comment est-ce qu'on peut travailler dans cette unification personnelle qu'on a chacun à vivre.
Voilà, c'est pour ça, on peut encore, dernière citation de cette magnifique lettre aux familles que nous vous invitons vraiment à lire, à relire, qui est une véritable épiclèse sur les couples de la part de Jean-Paul II. « Je fléchis les genoux en présence du Père, afin qu'il daigne vous armer de puissance par son Esprit Saint, pour que se fortifient en vous les couples, l'homme et la femme intérieure. » Voilà, c'est vraiment cette épiclèse qui va nous donner cette assurance inébranlable dans la promesse que le Seigneur a fait en nous, avec nous, lors de notre sacrement de mariage. Ce n'est pas une foi simplement en nous, en nos propres forces, parce que nous savons très bien avec les apôtres, hein, Matthieu 19 toujours, que c'est tellement difficile, c'est impossible, mais parce que nous sommes ancrés dans le Christ. Parce que nous accueillons l'Esprit Saint, alors effectivement, nous pouvons avoir cette assurance, hein, de Paul, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni présent, ni avenir, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ. Voilà. Vraiment, c'est cette bénédiction que nous invoquons sur chacun de nos couples, et vraiment nous prions pour que se fortifie en chacun de nous cet homme intérieur par le don de l'Esprit Saint. À très bientôt, à la semaine prochaine. Allez, soyez tous bénis.
The Holy Spirit. May the grace of life.